Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenons soin des autres. Go Bruins, go! Go Bruins, go! Ah oui. Bonne soirée. Demain, c'est vendredi, 14h. Tantôt.
Leclerc Communication vous rappelle que tout ce qui passe mode revient inévitablement au goût du jour. Le disco avec Daft Punk. We're up all night to get lucky. Karate Kid avec Cobra Kai.
All right, you ready to begin your training?
Yeah, sensei.
What the? Oh!
Lesson one, strike first. Mercy is for the weak.
Le pop-punk avec le revival de Blink-182. I miss you. Pis même les coupes Longueuil pis les permanentes.
Jeff qui me dit, là, moi, je m'en vais me faire faire une permanente.
OK.
Pis je vois que Nathan a une permanente.
J'ai pas de permanente, moi.
Hey, c'est mes cheveux à moi, ça.
OK.
Ça frise de même,
c'est
moi.
C'est tout à ton nom.
C'est tout à moi, ça.
Boulevard 102. Le retour de la force de la radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Marceau, le soir.
Bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer un excellent 60 minutes, puisque ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir une légende du moment, du temps où j'étais enfant. Étant né au centre-ville de Québec, bon, j'avais des amis qui avaient des vies un peu plus olé-olé que la mienne, et il y avait à côtoyer ce genre de légende-là que je vous présente ce soir. C'est l'ex-enquêteur à la retraite, Roger Ferland, qui est un chroniqueur auto, qui est un chroniqueur... à la station de radio et qui est un professeur aussi au Cégep. Monsieur Ferland, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir.
Enchanté également. Bonjour Yannick, bonsoir.
Roger Ferland a travaillé pendant combien de décennies au service de police de la Ville de Québec?
En fait, j'ai fait 35 ans comme policier, puis ça serait quelques mois de plus si je considère que j'ai débuté ma carrière à la Ville de Québec en 84.
Ouais.
Par la suite, il y a eu une pause entre les deux parce que j'ai fait... Il n'y avait pas d'emploi, fait que j'ai attendu. Je suis allé à la police de Montréal. Entre-temps, j'ai fait de l'ambulance au privé un petit peu ici à Québec. À la police de Montréal, à l'époque, c'était le SPCUM qui vivait, mais je voulais revenir dans la région. Ça a toujours été mon rêve. Fait que je suis revenu à Sainte-Foy. Fait qu'à Sainte-Foy, j'ai été là toute ma carrière jusqu'au moment des fusions. Puis là, ben maintenant... à la retraite depuis janvier 2020. En
fait. Le jeune Roger Ferland, quand il s'est lancé l'idée de devenir policier, qu'est-ce que vous vouliez faire dans la police? Est-ce que vous aviez déjà de la famille qui était dans la police? Moi, mes deux grands-pères, d'un côté, mon côté paternel et de mon côté maternel, c'était des policiers et c'était des fils de policiers aussi. On les embauchait pas pour les mêmes raisons que vous avez été embauchés. Dans le temps, on les embauchait pour leur bon jugement et leur corpulence. Mais vous, qu'est-ce qui vous a donné idée de rentrer dans la police?
J'avais, en fait, je réussissais relativement bien à l'école, fait que j'aurais pu faire n'importe quoi. Mais ça ne me tentait pas de faire des jobs de bureau. Je voulais faire une job active. Mon père avait un garage quand j'étais jeune, en Beauce. Fait que j'aurais aimé ça rester dans le monde de l'automobile, mais ça ne me tentait pas de faire la mécanique nécessairement. Puis après ça, bon, j'ai dû conduire des véhicules. Mais ce qui m'a vraiment inspiré, j'avais un cousin, effectivement, qui était policier, puis Colin, que je le trouvais sharp. Mon cousin Yvon, il était policier. L'attitude qu'il avait, le comportement, le plaisir, lui aussi aimait l'école, mais à l'époque, l'école nationale demandait, pour devenir policier, c'était juste aller à l'école nationale, qui s'appelait à ce moment-là l'Institut de police de Nicolette. Tu faisais 6 mois, puis c'était tout. Mais le temps que je finisse mon secondaire, ben ils ont décidé d'ajouter la technique policière, les 3 années. Fait qu'entre-temps, je l'ai faite. Mais j'étais inspiré par ça un petit peu. Puis j'avais toujours ce goût de justice. Je trouvais ça plate de voir toujours des gens qui n'étaient pas les bons qui gagnaient. Fait que ça a toujours été, je te dirais, un peu un leitmotiv pour moi. Je ne voulais pas une job de routine. Je voulais une job où ce que l'imprévu était possible. Fait que... Je me dis, tiens, pourquoi pas? Puis j'ai trouvé que la police était un travail de relation d'aide de toutes sortes, mais des fois, aider les gens, ça veut dire aussi les arrêter et les mettre en prison. Ça a été ma façon de voir.
Est-ce que vous avez été inspiré par les films policiers? Je sais que mes gars, ils adorent écouter Bad Boys, là. Bon, c'est pas le même type de policier, mais je veux dire, j'ai dû expliquer à mes gars que les policiers aujourd'hui se promènent pas en Ferrari et tout ça. Mais mon plus vieux veut être une police, puis lui, ben, c'est en raison des films hollywoodiens. T'sais, il n'a pas eu la chance de connaître mes grands-pères. Il n'avait jamais entendu parler de la police. Et là, quand il a commencé à voir des films qui impliquaient des policiers, puis auxquels il pouvait peut-être s'identifier. Là, il a dit, papa, moi, ce que je veux plus tard, c'est être un policier. Est-ce que de votre côté, il y avait des films policiers de l'époque qui vous inspiraient grandement?
Oui, vraiment. À l'époque, il y avait une série télévisée qui était une. Je ne me rappelle pas si c'était hebdomadaire ou si elle était quotidienne. C'était Allemandoos. C'était deux patrouilleurs qui répondaient à des appels de routine de base, des vrais patrouilleurs qui faisaient la job, là, t'sais. Fait que des fois, oui, et une chicane entre voisins, un chat d'un arbre, puis courir après des bandits, poursuite automobile. Allemandoos Rogers, c'était ça que ça c'était le code radio quand il disait. Ça m'avait inspiré. Kojak aussi à l'époque, c'est drôle aujourd'hui, moi qui n'ai plus de cheveux, j'ai des petites allures un peu à Kojak encore. Ça m'avait inspiré, j'aimais son attitude, la façon de faire, qui était très au courant de ce qui se passait dans le milieu criminel, mais un respect de l'autre côté face aux criminels, tout en disant, non, les gars, ça c'est une zone d'ombre, c'est une zone de lumière. T'sais. Fait que j'ai toujours joué un peu avec ça, de dire non, vous autres les gars. Moi, je vais rester dans une zone éclairée, puis vous autres, vous allez dans une zone d'ombre. Parfait, allez-y. Mais tu sais, c'était pas Star Wars qui m'a inspiré à l'époque, même si aujourd'hui, je te dirais Star Wars serait, ah, c'est ce phénomène-là un petit peu qui est là, qui m'inspirerait. Mais c'était vraiment un sentiment de justice. Mais oui, il y avait des séries télévisées. Il y a eu Chips, mais les gars étaient tellement machos que j'avais de la misère à embarquer avec eux autres. Juste très beaux sur leur moto, le Punchorello, puis l'autre, je sais plus le nom. Mais c'est un
Chip.
style de vie que je me dis, tiens, j'aimerais ça, rendre service aux gens. Puis que mon intelligence servait à quelque chose. C'était un
Ouais.
peu ma logique de fond, Yannick.
Il y avait Chips. Moi, j'ai, d'après moi, de mémoire, j'ai pris les dernières années de Chips parce que j'ai des souvenirs. Puis il y avait Miami Vice aussi. Miami Vice qui
Oui,
roulait pas
c'est
mal à la
vrai.
télé,
Miami Vice, par contre, ouf, que là, on changeait
là.
de braquette et de catégorie. J'aurais aimé faire leur style de police, mais ça ne correspondait pas aux miennes.
Ouais. Quand vous avez débuté votre carrière de policier, vous avez été patrouilleur. Bon, de ce que j'ai compris tout à l'heure, c'était dans le secteur de Montréal. Ça devait brasser comme pas possible à cette époque-là. Puis les moyens que vous aviez à l'époque, les armes que vous aviez pour essayer de vous sortir des fois du pétrin n'étaient pas les mêmes. Bien souvent, c'était plus physique qu'autre chose. Aujourd'hui, on a le fameux Taser Gun, puis il y a d'autres armes que vous pourrez nous mentionner. Mais ça devait pas être facile à Montréal à l'époque quand vous avez commencé. Ça devait être un peu plus la jungle.
C'est un peu plus difficile, surtout pour moi qui arrivais de campagne, mais j'étais un gars qui était habitué d'avoir des contacts citoyens, connaître tout mon monde. Je ne te cacherai pas qu'au début, j'ai trouvé ça difficile parce que c'était un milieu cosmopolitain. Tu avais plusieurs nationalités sur le territoire où j'étais. Ça parlait en anglais régulièrement. Ce n'était pas ce que j'ai plus souvent pratiqué en Beauce. Puis la façon de travailler était très loin d'aujourd'hui. Tu avais uniquement à l'époque une arme à feu et une lampe de poche là-bas. Tu n'avais pas d'autres équipements intermédiaires. Fait que ta lampe de poche, ben, ça t'éclaire, sinon c'est un bâton pour frapper, là, t'sais, t'sais. C'est assez limité ce que tu as entre les deux. Le PR-24 était apparu, le bâton, qui n'était pas un bâton télescopique, mais tous les policiers, ils n'en avaient pas à ce moment-là. Ça commençait par contre. Fait que si tu avais eu la formation, tu pouvais l'avoir. Mais ce que je trouvais difficile, c'était de travailler avec toutes les différences des gens. J'aimais vivre avec ces différences-là. Mais ça me sortait de mon monde. Puis ce que j'ai trouvé difficile, c'était, je le répète, pas le contact humain avec les gens. On faisait un petit peu de la police de fast-food. On répondait aux appels. Aujourd'hui, on traite tellement de disparitions différemment de ça. Une personne t'appelait, son enfant t'a disparu ce soir. Oui, parfait. Je suis combien de temps, madame? Elle n'est pas rentrée de l'école? Ouais, à soir. Il est 8 heures. Attendez demain matin, puis attendez presque 24 heures, puis vous nous rappellerez. C'était ça à l'époque. Fait qu'on travaillait autrement. Aujourd'hui, quelqu'un t'appelle, tout de suite, on embarque ses médias sociaux, tout de suite, on embarque sur son cellulaire, la géolocaliser. La technologie a changé, les façons de faire ont changé, puis on sait qu'il y a eu des disparitions aussi de cette façon-là aussi qui n'ont pas été enquêtées, je te dirais, selon les règles de l'art d'aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était comme ça. Puis c'était la fin de l'ère, je te dirais aussi. Des policiers, je vais prendre ce terme-là, qu'on embauchait à la livre. À la livre pour le poids. Tu l'as laissé entendre un peu tantôt. Puis c'est parce qu'il y a eu un gros gap. Il y a eu 8 ans pas d'embauche entre, je te le dirais, l'embauche a repris dans les années 84-85 au Québec. La vague du baby boomer était là. Alors, il n'y a pas eu d'embauche dans l'enseignement, dans les hôpitaux, dans la police. Alors, il y a eu pendant un long moment que des jeunes et des vieux se sont côtoyés, mais en attente d'emploi. Alors, quand ça a débouché vers les années, comme je te dis, 85, 86, dans ces années-là, puis ça a débuté en 84, parce que partout en province, Sûreté du Québec, SPVM, personne n'embauchait. Là, on s'est ramassé à plein de gens. Fait, il y avait eu un gros changement. Les filles dans la police étaient apparues, les femmes dans la police étaient là. Ça avait changé ça aussi. Fait que des gros changements se sont opérés dans ces années-là, je te dirais, fait quand même 40 ans, un peu plus, là, fait 45 ans quand tu fais le calcul, là,
Oui.
mais qu'à peu près.
Mais c'est beaucoup de bouleversements. Mes grands-pères me racontaient que eux, ils étaient, quand ils devaient patrouiller, il y avait pas de voiture, là. Ils se promenaient à pied, ils étaient en ville, puis les cabines téléphoniques étaient quand même assez éloignées. Si je me trompe pas, on m'avait dit que c'était dans le secteur Grande Allée, proche du Maurice. Il y avait la cabine téléphonique que eux utilisaient. Donc, quand ils intervenaient dans une situation où c'est une situation qui dégénérait, la personne était mise en état d'arrestation, devait traîner l'individu jusqu'à la cabine téléphonique pour appeler de l'aide. Je veux dire, on était à une autre époque, là.
Complètement. Tu le dis, la technologie a tellement rendu des avantages, a amené beaucoup d'inconvénients aussi qu'on vit, mais en ce moment, là, mais beaucoup d'avantages. Le mode de communication a changé complètement la façon de travailler, a changé complètement la façon même de réussir à avoir et du support, mais des renseignements policiers. Le CRPQ à l'époque, le Centre des renseignements policiers du Québec, tu sais, on devait appeler, je me rappelle, la police de Montréal, les premiers appels, tu sais, on appelle, parfait, tu changeais de bande radio. Il y avait quand même ça qui était le fun. Tu avais au moins les SRPQ, mais parfait, véhicule 31.5, vous êtes 28e en attente. Fait que tu vas devoir attendre 27 autres personnes avant toi qui vont demander de vérification radio. Alors, j'espère que ton appel est urgent. J'espère que ta vérification que tu veux faire sur la rue est urgente parce que tu vas devoir attendre. Oui, tu avais le droit de demander priorité des ondes. Tu avais le droit de passer en avant de tout le monde. Mais il fallait que tu le dises, tu donnes la raison. Puis là, il te donnait priorité. L'opérateur de CRPQ allait te pitonner ça plus vite. Là, aujourd'hui, c'est rapide. Il y a des lecteurs de caméras sur certains véhicules qui lisent ta plaque puis qui donnent le retour aux policiers instantané dans la voiture. Mais il y a aussi le visuel. Les policiers regardent la plaque puis ils apprennent eux-mêmes, ils pitonnent. Mais tu as un retour en quelques secondes. On est loin de ça aujourd'hui. Fait que enquêter un véhicule qui est en infraction sur la route ou pour quelque autre raison, c'est extrêmement rapide. Fait que ça a changé beaucoup. Puis il va même de tous les équipements, la technologie. À l'époque, il y avait des vestes pare-balles dans les véhicules, exemple à la police de Montréal. Mais c'est parce que tu avais peur que tu en mettais une. Pourquoi tu en mettais? C'était le début de cette ère-là. On finissait de l'ère des policiers, 18 pouces de bras, de 6 pieds, 250 livres. Ah, tu vas faire une bonne police, mon gros. C'est fini ce temps-là. Mais c'était la fin de cela, fait qu'on a vécu, j'ai vécu ce changement-là, où ce qu'on a, je vous ai envie de vous dire, des policiers un peu plus en équilibre entre leurs émotions et leurs passions, raison, passion, appelle-moi ça ce que tu veux, mais je pense que cet équilibre-là qu'il fallait avoir, c'est pas vrai que c'est juste par la force que tu résous des problèmes, t'en résous, mais c'est pas juste par ça, c'est pas vrai. C'est pour ça, fait que ça a été des gros changements, puis aujourd'hui, tu demanderas aux policiers, Yannick, tout le monde va porter une veste pare-balles. Ce n'est même pas une condition. Ce n'est pas une question de peur, c'est une question de sécurité pour l'environnement puis la faune domestique qui nous entoure.
Voilà, on ne se pose plus la question, puis vous me rappelez des souvenirs, c'est de la nostalgie, mais je me souviens que quand les policiers venaient nous visiter à l'école pour nous voir, pour parler du métier de policier, puis d'autres trucs qui se passaient à Québec. Moi, j'étais à Cardinal-Leroy. C'était-tu Cardinal-Leroy? Non, ça, c'était quand j'étais au primaire. Fait que j'étais à Beauport à ce moment-là. Puis les policiers qui venaient nous voir nous montraient un peu le véhicule de patrouille. Puis je me souviens encore du 12 qui était juste en dessous du miroir là, dans notre voiture.
Oui.
Je trouvais ça incroyable. T'sais, aujourd'hui, quelqu'un qui voit ça dit, ben voyons, c'est un char d'assaut. Non, non, c'était comme ça dans le temps, là, dans les années 80.
Oui, c'est ça. Oui, tu vois ça pour chez nous ici. Puis quand je suis allé aux États-Unis, c'est moi qui ai tombé un peu sur le cul, pas dire, en Floride, où est-ce que le policier m'a demandé combien d'armes à feu j'avais en ma possession. J'ai répondu, j'en ai un. Ah oui, t'as quoi? Avec là, j'ai répondu, j'avais un 9 mm. Puis là, il dit, tu fais quoi? Ben, j'ai dit, j'en ai. C'est parce que vous manquez de budget. Ça, c'est un autre problème. Je dis, non, c'est pas parce qu'on manque de budget. J'ai dit, ben là, fait que là, il m'a dit qu'il avait son petit gun, il avait le gros, il avait l'arme de l'arme d'impact, fait qu'il y avait un fusil 12, il y avait également une arme de longue portée, il y avait également une mitraillette. Il y avait cinq armes en sa possession, il me les a toutes montrées. Là, j'ai regardé, j'ai dit, ça ne vous tente pas en Floride qu'ils vous apprennent à tirer comme du monde à la place? Un seul arme. Si tu n'es pas capable dans tes premières balles de faire feu, c'est ce que tu veux, tu penses pas? Là, il disait, non, ce n'est pas pour ça. Il dit, il faut que tu sois capable de répondre à la puissance qui t'est opposée. Ils n'ont pas tort, mais si vois-tu, c'est la philosophie américaine. Les armes à feu sont omniprésentes. On est tellement loin de nous ici. Moi, j'aime mieux que dire, on va dans la population qui n'a pas d'armes, alors le seul qui a ce privilège ou l'opportunité de posséder une arme légalement, ça devrait être les policiers, ça vient de changer la donne pas mal au niveau sécurité pour tout le monde.
Exact. Est-ce que votre vie était plus en danger à l'époque qu'aujourd'hui, considérant le fait que vous étiez peut-être un peu moins armé, moins équipé, vous l'avez mentionné tantôt pour ce qui est des chemises pare-balles. Il y avait d'autres façons de faire. Là, moi, je me suis fait raconter des histoires comme les grands-pères rentraient dans le bar, il y avait une chicane, puis là, ils devaient se battre avec les clients pour essayer de les séparer, pour ensuite, pas les amener à la centrale de police, on parle d'une autre époque quand même, ils les ramenaient à la maison, puis là, c'était la dame qui prenait en charge son mari puis qui l'engueulait. Je veux dire, souvent, les policiers rentraient à la maison puis ils étaient maganés, là.
Oui, tu as raison. Puis regarde, on s'est rendu compte assez vite, Yannick. Puis de toute façon, quand on s'est mis à embaucher des policiers qui étaient plus embauchés avec un poids et une grandeur automatique, ce qui était là, puis ça a changé dans les années où je suis arrivé, parce qu'en permettant aux femmes de devenir policiers, ils ont enlevé la grandeur, ils ont diminué la grandeur. Alors là, il y a eu des combats chez les gars aussi pour dire on le fait. On a dû modifier beaucoup de façons de faire. La formation a changé, les équipements ont changé. L'attitude a changé aussi. Qu'est-ce qu'on s'attend maintenant d'un policier? On ne veut plus nécessairement que tu arrives là puis tu gagnes à tout prix. Ce n'est pas vrai. Là, à cette heure maintenant, c'est la loi du nombre qu'on va souvent utiliser. On va essayer d'être en surnombre par rapport aux gens avec qui on est, là, dès qu'il y a la règle du 1 plus 1. T'sais, si tu t'interviens avec une personne, ben, arrange-toi pour être deux. Si tu interviens avec quatre, ben, essaie d'avoir toujours une personne de plus. Mais aussi la règle à l'inverse, de savoir s'il y a un risque, ben, considère qu'il peut y avoir un autre danger, toujours d'un plus un encore là. Mais je veux juste te ramener, la formation a beaucoup changé. On prépare nos jeunes à réfléchir, à avoir une attitude. Avant, tu avais zéro désescalade. On avançait, puis c'était le bulldozer qui ramassait tout. Là, cette heure, on avance, on s'ajuste, puis on s'adapte à la situation. Fait que ça veut dire que les interventions qui prenaient avant quelques minutes à prendre prennent maintenant un peu plus de temps. Parce qu'on veut que ça finisse sans effusion de sang, sans bagarre, sans colère. T'sais. Ça a changé à beaucoup de niveaux. Regarde, ça a changé dans l'éducation, ça a changé dans plein de méthodes, à plein d'endroits. On a arrêté, c'est les années où la correction, on a arrêté que la correction soit permise, la correction avec la règle, la strap, nomme-moi ce que tu veux là. C'était normal, là. On avait tout un petit instrument que nos parents avaient qui était la règle à l'époque. Mais tu parlerais de ça aujourd'hui, nos jeunes, ben non, ça se peut pas, c'est pas vrai, là, t'sais. Oui, mais c'était comme ça. L'Église était omniprésente, il y avait des. Fait que c'était comme ça dans l'éducation, c'était comme ça dans la sécurité publique aussi. Maintenant, parle-moi même plus de ça. Tu as le droit d'utiliser la force qui est nécessaire, mais très vite, tu deviens balisé par la force excessive. Fait que comment tu vas travailler, comment tu vas intervenir? On dit souvent aux jeunes en ce moment, on parle de leur fée intérieure, là. La formation, l'entraînement, l'équipement, l'environnement, il faut toujours que tu évalues ça, mais on en a donné beaucoup. Puis nos policiers sont extrêmement bien formés, je te dirais, en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'ils ne prennent pas des faux plis à l'occasion dans le travail, mais ça a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que je pense que chaque époque, Yannick, a fait son temps pour son risque, sa sécurité. On m'a dit quand je suis rentré dans la police en 84 qu'il n'y aurait plus jamais de fun à faire dans la police. J'ai eu 35 belles années. Je ne te dis pas que je ne me suis pas chicané avec des patrons à l'occasion. Je ne te dis pas que je n'ai pas eu des confrères avec qui j'ai dû remettre à leur place, à mes yeux, et vice-versa, qui m'ont mis à ma place. Mais, puis ils m'ont parlé aussi des règles de sécurité à plein d'endroits. Mais il y a des attitudes qu'aujourd'hui, tu fais différemment parce que tu as un contexte différent, puis ta société est différente. Fait que j'ai envie de te dire, non, chaque jeune s'adapte à sa génération. Puis je te dirais, il y a encore full de fun à faire, mais tu ne fais plus de la même façon. C'est plus vrai que dans les années 50.
Vous avez eu une très longue carrière au service de police de la Ville de Québec. Vous avez été policier, vous avez été enquêteur. Est-ce que vous avez déjà craint pour votre vie? Est-ce que vous êtes déjà, parce que vous avez côtoyé des criminels, pratiquement les pires criminels que les policiers peuvent côtoyer. Est-ce que vous avez déjà craint pour votre vie ou la sécurité de votre famille, de vos enfants?
C'est déjà arrivé, ouais, à l'occasion d'une couple de reprises. C'est déjà arrivé qu'un criminel se présente chez nous, parce que j'avais arrêté de ses amis, puis il est venu me voir chez nous pour me dire que je ne devrais pas arrêter ce monde-là, tout le restant. C'est sûr que là, quand c'est arrivé, cet événement-là, Yannick, pour être franc avec toi, j'ai dû donner une sentence sur place, là. T'sais, la personne a été arrêtée immédiatement, maîtrisée sur place, et j'avais crié à ma conjointe à l'époque de appelle les policiers pour qu'ils viennent le chercher, le monsieur, là, parce que je ne leur lâche pas d'ici à
Non.
terre, là, t'sais.
D'après
Mais j'ai pas trouvé ça le fun.
moi, votre conjointe craignait plus pour le bandit que pour son chum.
Je me rappelle plus de tout, mais non, non, je m'en rappelle très bien. C'était pas le temps. C'est pas vrai que je vais reculer. Je suis un honnête
Non,
citoyen.
c'est ça.
Viens pas chez moi me baver. Le milieu des motards, le crime organisé, il y a déjà eu des messages qui ont été échangés de part et d'autre. Puis, c'est pas vrai. Ces gens-là respectent aussi ta vie privée. Si toi, tu la respectes également. Alors, j'ai toujours respecté ça aussi de mon côté. Je vais te dire clairement, j'ai vécu à Saint-Nicolas pendant 23 ans. Les Hells Angels avaient le local à côté. Mes enfants les fréquentaient à l'école. Je te dis pas que c'était le fun, les enfants des Hells. Il y avait un respect. Je les voyais au taekwondo, au soccer. Je les voyais dans les activités sportives. Fait que, puis je me disais, ah, c'est plate. Ils ont la même vie que moi ou presque. Mais vous autres sont d'un bord de clôture. Moi, je suis de l'autre. Mais j'ai jamais craint ma sécurité avec ces gars-là parce que il y avait un certain, ce que j'aime pas dire, mais un certain respect pour pas dire un code d'honneur. Tu traverses pas cette ligne-là. J'ai jamais été un policier ripoux. J'ai jamais fait de gestes gratuits envers eux non plus. Fait que c'est correct. Mais qui ne m'aime pas, c'est une chose, mais qui me respecte, c'est une autre affaire. Qui ne m'aime pas parce que je ne suis pas leur chum à inviter au party, mais ils me respectent. Si tu me demandes si j'ai eu peur, il y a eu un moment, comme je t'ai dit, que je devais procéder à l'arrestation de quelqu'un chez moi. Il y a eu, par contre, quand j'ai travaillé le dossier sur la prostitution juvénile, je ne te cacherai pas que ce moment-là, j'ai senti que je m'étais attaqué à des gens influents, des gens qui avaient du pouvoir. Moi, je ne m'attaquais pas au pouvoir, je m'attaquais à des criminels qui posaient des gestes criminels. Tu as le droit d'avoir de l'argent, c'est bien correct. Tu as le droit d'être bien en vue dans le public, c'est bien correct, mais ça serait le fun que tu couches avec des filles qui ont l'âge puis que tu ne les payes pas nécessairement. C'est tout, terminé. Moi, la réponse s'arrêtait là. Tu vas aux prostituées, vas-y, mais s'ils sont majeurs, j'en ai rien à faire. Fais ce que tu veux ce soir chez vous, c'est correct. Mais à partir du moment où c'est des jeunes filles de 13, 14, 15 ans qui sont ta clientèle, j'ai beaucoup, beaucoup de misère. Puis surtout que certains clients, même si on ne l'a pas travaillé nous, ben, auraient préféré un petit gars ou une petite fille, c'était pareil. Alors, je me suis dit à un moment donné, de me se poser des questions, Caroline, un petit peu, ça se peut-tu que ça m'arrive aussi? Parce que moi, j'ai eu juste deux garçons, j'ai pas eu de filles. Fait que je me suis dit au début, ah, je m'en occupe-tu ou pas? Je m'en suis occupé. Je le raconte dans le livre quand je l'ai expliqué, ça, Yannick, mais je veux te dire simplement, Caroline, si tu t'en occupes pas, qui va s'en occuper tantôt de ça? Puis, dans cette séquence-là, j'ai senti que la fabrication d'images, on pouvait facilement te la modifier, te la pivoter dans les médias. Fait que j'ai compris que, oups, là, même là, il y a eu des patrons qui m'ont très bien guidé en me disant, Roger, entre toi et moi, là, Roger, ferme ta gueule, va en cours faire ce que tu as à faire, donne ton information, puis commente pas à côté, fais pas d'autres choses. Oui, mais c'est pas ça qui s'est passé, c'est pas ça qui se passe à cours, il faut qu'on défende un tel. Roger, arrête, là, c'est devant la justice, puis la justice ramène les faits, on veut pas trop d'émotions, on veut ça straight, fait que donne-nous ça straight, on va vivre avec, puis c'est ce que j'ai fait. Mais dans une séquence, en fait, on m'a surveillé jusque chez moi, on m'a surveillé, on m'a filé. J'ai trouvé ça tanné un petit peu. Parce que je me suis dit jusqu'où ils vont aller. J'avais aucun squelette dans le placard. Mais c'est tannant parce que j'ai senti qu'on était capable d'inventer des bouts d'histoire si on voulait les inventer. Fait que j'ai dit OK, parfait. Mais la vie a été bonne pour moi. Des moments où il aurait pu arriver de quoi, Yannick? Il y a des gens ou d'autres personnes qui sont intervenues puis qui m'ont donné les portes de sortie que j'avais besoin, soit en me donnant des informations extrêmement privilégiées, me dire, es-tu au courant, Roger, telle affaire, es-tu au courant de telle chose? Alors, ça m'a permis que des gens en équipe remettent des gens à leur place pour leur dire, traversez pas cette ligne-là, ça va être tannant. Mais dans les faits, c'est pas vrai que c'est si dangereux que ça, mais on s'entend, c'est aussi dangereux pour n'importe quel jeune patrouilleur en ce moment de débarquer sur Grande Allée et d'intercepter quelqu'un quand tu ne sais pas c'est qui y a dans la voiture, surtout dans le contexte qu'on est en ce moment, en tension armée entre deux gangs. Ça, j'aime pas ça. Puis là, en ce moment-là, c'est là qu'il faut que les petits privilèges ou les petits droits, j'ai le droit de, pourquoi tu me vérifies? Montre-moi tes mains, puis reste bien calme, le grand. Je veux savoir qu'est-ce que tu fais dans ce char-là aujourd'hui ici. Tu sais, c'est là que ça prend des skills puis des façons de faire en communication stratégique extrêmement, j'ai envie de dire, efficaces. Parce que n'intercepte pas qui veut en ce moment sur la rue. Je pense même qu'il y a des policiers qui sont un peu frileux d'intercepter du monde en ce moment à cause de cela. Parce qu'ils Il y a un risque surtout en ce moment.
Ouais, vous avez parlé tout à l'heure qu'il y avait une certaine forme de respect, on s'entend, là, entre les policiers puis les motards de l'époque. On ne s'attaquait pas aux femmes des motards, on ne s'attaquait pas aux femmes des policiers, la famille, tout ça. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? J'ai l'impression qu'on a pris des... chez les criminels, on prend des techniques qu'on voyait régulièrement, il y a de ça peut-être 10-15 ans en Amérique du Sud, où on s'attaquait à qui on voulait, même si c'était aux enfants, sans aucun problème, si ça peut nous amener là où on veut nous amener. Je crains le pire pour les prochaines années au Québec si on ne réussit pas à freiner ce qui se passe là actuellement. Un jeune homme de 14 ans qui se ramasse en morceaux, brûlé dans le secteur de Frampton. Monsieur Ferland, jamais j'aurais pensé que ça pourrait arriver chez nous. C'était à 10 minutes de chez mes gars, tu sais, ça m'a resté dans la tête. Puis mon gars, il a 10 ans actuellement, il va fêter dans quelques jours son 11e anniversaire. Puis là, on parlait d'un jeune homme de 14 ans, donc je me disais 3 ans et demi de différence, on donne à ces enfants-là des AK-47 pour aller frapper des bunkers de Hells Angels, mais où est-ce qu'on est rendu?
Oui, puis vois-tu, tu exprimes une notion en ce moment qui est extrêmement importante. Oui, je pense que là, on subit une certaine influence du Sud-Américain, oui, de la violence là-bas. Comment les cartels ont fait pour prendre le contrôle? Ici, on en entendait parler à l'occasion, mais tu ne voyais pas ça parce qu'on était capable d'interagir et d'intervenir tout de suite avec eux. Mais ces dernières années, on a laissé aller des changements législatifs importants au niveau de la loi, punition des armes à feu, les gangs arrêtés des profilés, êtes-vous en train de faire du profilage criminel ou du profilage racial? Alors, les policiers sont frileux aussi là-dessus. Il y a eu beaucoup de choses qui sont mises ensemble. Puis nos jeunes, Yannick, sont un peu installés de la même façon que tous nos autres enfants qu'on a en ce moment. Ils sont influencés par ce qu'ils ont sur le cellulaire. Les influenceurs sont là. Alors, qui ne veut pas en ce moment, sans avoir trop travaillé, devenir multimillionnaire, rouler dans les belles autos, avoir une vie de riche, je pense que ça, c'est une grosse notion. Alors, ça leur est accessible, oui, lui, il l'a fait. Alors, en ce moment, on a des modèles pour nos jeunes dans certains quartiers. On en a moins ici à Québec, mais si on les laisse faire, on va en avoir, c'est certain. Mais ça a commencé beaucoup dans les régions de Toronto, Montréal, ça s'en vient chez nous, là. Bien, ce qu'on voit, là, les jeunes... Ils veulent aussi avoir leur place, leur part du gâteau. Ils veulent tasser, ils veulent tout de suite avoir leur place au soleil, avoir de l'argent, devenir populaire, devenir riche. Tout ce que la société nord-américaine pense offrir gratis, bien, ça n'existe pas gratis. Il y a du travail à l'air de ça. Quand on regarde tout le travail que le crime organisé a fait au fil des années, on trouvait que les motards avaient devancé en 25 ans avait rattrapé ce qu'il y a peut-être en 50 ans, la criminalité italienne avait réussi à faire. Les motards l'ont fait. Mais je suis obligé de te dire qu'en 3-4 ans, ces dernières années, les gangs de rue ont atteint à peu près ce que les motards ont réussi à faire en 25 ans. Soit gagner une place, tasser les têtes dirigeantes, puis être aussi violent qu'eux, mais sans aucune limite. Alors là, d'être capable de demander, on s'entend bien là, ce n'est pas le jeune de 14 ans qui est allé voir le vieux de 28 ou 30 ans. C'est le gars de 28 qui en a parlé à sa gang de chums. L'autre a descendu ça. Ouais, moi, je suis coach d'une équipe sportive à quelque part. Je connais les jeunes de mon quartier. Ça redescend tranquillement. As-tu un petit frère, toi? Demande à ton petit frère. Regarde, ça y tente-tu de faire 500 piastres rapide? Ça valait peut-être 5 000 $ pour aller tirer sur le local, Yannick. À peu près ce que je pense, là, tu sais. C'est un symbole, tu vas tirer sur le local. On te fournit un char volé. T'es hot en tabarnouche. On te donne ça. On te donne des bidons d'essence. On te donne des mitraillettes. Tu dis comment t'en servir? Ouais, j'ai vu ça sur YouTube. Parfait, va-t'en t'en servir. C'est à peu près ça, là. Puis va-t'en tirer là-bas, puis quand tu vas revenir de là-bas, tu es un héros. C'est plate, mais on place des faux modèles en ce moment à certains jeunes, c'est clair. Puis il va falloir que des communautés ou des gens qui sont influents dans ces secteurs-là prennent les responsabilités et ramènent ça. Ça va finir une job police parce qu'ils vont arriver dans le domaine de la sécurité et on va les croiser sur notre chemin. Mais au départ, il faudrait commencer à le travailler en amont, puis aller récupérer cette... Puis là, je vais te dire, cette belle énergie-là que les jeunes ont. Tu as été jeune, Yannick, j'ai été jeune. 14, 15 ans, 16 ans, là, tu me disais pas game, j'étais capable d'en faire pas mal. Tu sais, j'avais du gaz, puis j'étais capable de brasser un peu. Je me souviens d'être battu dans le cours d'école, puis je me souviens d'avoir brassé dans le sport, je me souviens d'avoir fait plein d'affaires. Mais je voulais juste bouger. Est-ce qu'aujourd'hui, on fait assez bouger nos jeunes? Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte qu'on les encadre assez? Est-ce qu'aujourd'hui, puis encadre assez, je ne veux pas les materner, je veux lui dire, allez-vous en cours d'école. J'ai souri quand j'ai vu le ministre dire on va les envoyer jouer au roi de la montagne. Là. Ben oui, Colin, on s'est tous pitchés en bas de la montagne, puis on s'est tous bousculés, puis on s'est
Ouais.
tous donné des jambettes de cochon un peu. Mais quand ça faisait mal, après, tu le savais. Fait que là, tu arrêtais le lendemain, puis tu te foulais de quoi, tu jouais plus pour 3-4 jours dans ton sport. T'sais. C'est pour ça que je trouve que là, on a essayé d'aseptiser tout ça, ça ne marche pas. Il faut qu'on laisse nos jeunes vivre des expériences, mais je ne veux pas qu'ils aient des expériences comme ils vivent là, les jeunes de 14 ans puis 15 ans. Puis il y a des mouvements sociaux en ce moment dans certains quartiers qui ne font pas mon affaire. On ne les a pas tant que ça chez nous encore dans la région de Québec. On ne les avait pas tellement en région, mais on les vit à Québec puis dans les régions. Parce que les gens là-bas, ils disent, j'ai rien avant de moi. Je veux de quoi dans mon quartier, je veux être heureux. Ben, je veux ça. Ben, je vais sortir de là pour m'aller le prendre parce qu'il existe dans le cours du voisin.
Je parlais avec Maria Mourani, qui est criminologue, puis elle parlait du modus operandi des gangs de rue pour approcher ces jeunes enfants-là qui deviendront des enfants soldats. Puis on peut faire un parallèle avec la prostitution juvénile à Québec, où on nous a parlé du modus operandi des gens qui voulaient profiter de ces jeunes filles-là. Ça commençait toujours par l'amour. Par la suite, il y avait de la drogue qui rentrait en jeu. On rendait la jeune fille dépendante de cette drogue-là. On essaie de la désensibiliser avec des tripes à trois, moyennant de l'argent, parce que là, ben, la personne qui fournissait de la drogue, elle n'avait pas de drogue ce soir-là parce qu'elle n'avait pas d'argent. Donc, tu peux-tu faire un trip à trois avec moi puis mon chum, puis il va nous donner 500 pièces, puis on va avoir encore plus de drogue. Donc, la jeune fille était amoureuse, était dépendante de la drogue, elle s'embarquait là-dedans. Puis là, c'est un modus operandi qui va faire en sorte qu'elle va être complètement désensibilisée pour en finir comme prostituée. Bien, chez les jeunes, entre autres à Montréal, vous l'avez dit tout à l'heure, à Toronto aussi, on approche des jeunes qui n'ont pas un gros cercle familial dans certains cas. Parfois, la mère est absente, parfois, le père est absent. Ils n'ont pas l'impression d'avoir de famille. Et là, ils rencontrent une gang de gars qui disent « Bienvenue chez toi, tu es dans ta famille. » Et très vite, l'argent arrive, très vite, la drogue arrive, puis ça te tente-tu de grimper dans la hiérarchie, puis voici les petits contrats que tu peux faire pour nous autres. Ça commence très, très, de façon insidieuse. Les jeunes n'ont pas le cerveau assez développé pour se rendre compte des choses dans lesquelles ils s'embarquent. Puis ce jeune homme-là de 14 ans, j'ai hâte de voir le fin fond de l'histoire, parce que moi, mon hypothèse, c'est que c'est quelqu'un qu'on avait tué ailleurs qu'à Frampton, qu'on a amené là pour mettre de la chaleur sur les motards, parce que ça fait pas partie du modus operandi des motards de tirer sur quelqu'un, ensuite le démembrer puis le brûler. Je veux dire, ma théorie vient du fait que c'est les gangs de rue qui ont pris ce jeune homme-là, qui l'ont fait grimper, qui ont proposé des choses, il a accepté, ils l'ont malheureusement tué, puis ils l'ont envoyé à Frampton avec d'autres qui étaient aussi manipulés. Ils ont tiré sur le bunker, ils ont mis le feu au véhicule, puis ensuite ils ont sacré leur camp. C'est très insidieux la façon dont les gangs de rue fonctionnent avec les jeunes enfants. Puis en tant que père de garçon, puis moi aussi j'ai deux garçons, M. Ferland, on a ça en commun, ça m'inquiète grandement
Ah oui.
de
Oui, mais ce que
l'entourage de
tu.
mes gars, là,
Oui, puis ce que tu dis, vois-tu, là, tu as parlé d'un modus, tu l'as bien décrit, là. Tu as décrit. Mais en fait, les bons leaders négatifs, on va dire comme ça, par contre, savent détecter la faiblesse quelconque chez l'individu qui est en avant d'eux. Et c'est cette faiblesse-là qu'ils vont utiliser. Alors, si c'est une certaine dépendance affective, ils vont utiliser ça. Si c'est le sentiment d'appartenance à un groupe, ils vont utiliser ça. Si c'est l'argent que tu veux, ils vont utiliser ça. Si c'est le sexe, la drogue, name it. Fait qu'en voulant dire, mais on va t'étudier. Ces gens-là, entre toi et moi, sont relativement brillants. Parce que c'est comparable quasiment des fois à un endoctrinement d'une secte gourou, là. T'sais, les leaders ont du pouvoir. Puis, quand tu regardes, vite, je regarde en ce moment, puis je ne veux pas le dénigrer lui, mais Puff Daddy, ce qui lui arrive. Ben, tu sais, ben des fois, on s'est posé des questions, puis ça a été un leader négatif pendant longtemps, mais hey, il a réussi. Il est une vedette, il est une star, il est en haut de l'échiquier. Là, vois-tu, on dirait qu'il n'y en a plus de tour d'ivoire où ce qu'on peut te protéger à tout prix, puis qu'on va toujours te baquer. Puis non, non, tu peux tout faire, puis c'est pas vrai. C'est pour ça que j'enlève Puff Daddy de l'équation, mais on a de faux leaders en ce moment qui influencent, puis de toutes sortes de façons. Fait que. Je pense qu'en ce moment, il y a une prise de conscience à faire. Il y a du travail à faire policier terrain, mais il y a beaucoup de travail prévention. Mais je ne vais pas te dire on va définancer les policiers. Arrêtez-moi ça, là. Tu as absolument besoin de tes garde-fous. On est l'arbitre sur la glace, Caroline. Mais ça ne veut pas dire que c'est notre travail unique qui va faire la job. Tu sais, je m'implique encore socialement auprès de jeunes. Puis hier soir, je ne te cacherai pas, ça m'a fait un petit velours quand deux, trois gars sont venus me taper dans la main. Des jeunes que l'an passé, que je coachais, que, hé, Colin, que je n'étais pas sûr quel chemin ils allaient prendre dans la vie, ils ont resté au cégep, ils ont continué à faire du sport. Puis là, ils jouent sur l'équipe collégiale d'un collège à Québec. J'étais vraiment fier de ça, de voir, good job, les gars. Oui, puis continue. Mais il faut aussi qu'on soit là, nous autres, sur le chemin pour le dire. Mais tu sais, tu dis, Yannick, là, on passe des messages, mais t'es pas le père de tout le monde. Puis quand t'es à la radio, ben, t'es pas chez vous à la maison aussi, là, tu sais. Mes enfants me l'ont fait remarquer quelquefois. Ils disent, père, ils disent, t'es bien fin, mais t'es pas là. T'sais. Fait que moi aussi, à un moment donné, avec du recul, je me suis rendu compte, Colin, où c'est que j'ai été. Tu sais, il y a un travail à faire, mais je pense qu'il doit se faire en équipe. Ça prend tout un village pour élever un enfant, là, tu sais. Ça prend une famille, le mettre au monde, mais ça prend tout un village pour l'élever. Je pense qu'on est rendu là. Il y a une prise de conscience sociale à prendre. Puis de dire, il faut se réimpliquer un petit peu avec nos jeunes, parce que c'est clair que d'autres influenceurs vont lui dire, viens ici, mon grand, regarde, l'avenir t'appartient, prends la mitraillette qu'il y a là, va-t'en faire la job. Attendons de voir, mais là, on a créé un nouveau paradigme. Il est fait, là. Il est en train de se faire. Il y a des gens, puis ils montent, puis ils réussissent. Pas sûr que je veux ça, moi, là. Pas sûr que c'est ça que je veux.
Mes fils n'ont pas le droit de jouer à GTA. Là. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu vidéo-là.
Oui,
Par
monsieur.
contre, ils vont faire des tours sur YouTube. Puis à l'école, ben, c'est des gars, c'est des petits bossons. Hein. Donc, ils ont entendu parler de ce qui s'est passé à Frampton. Et ils m'ont dit quelque chose qui va me rester à tout jamais en mémoire jusqu'au jour où ils auront l'argent pour acheter la fameuse cassette GTA, si on appelle ça encore une cassette. Ils m'ont dit, papa, le petit gars, il a fait comme dans GTA, puis il a perdu. J'ai dit, ouais, mais il a perdu la vie. Il ne peut pas en avoir une deuxième, comme lorsqu'on joue dans GTA. Puis ils m'ont regardé, puis ils étaient comme pas sûrs. Ils sont très influencés par ce type de jeu vidéo-là. Tu sais, je suis pas du genre à dire qu'il faudrait empêcher tous les enfants de jouer à des jeux violents, mais de voir qu'ils ont fait un parallèle très rapide entre aller chercher une certaine gloire en étant criminel avec des armes, des véhicules, de l'argent, puis de s'en aller faire des missions en allant tirer sur un bunker, puis en allant essayer de tuer, entre guillemets, des Hells Angels. Ils ont fait ce parallèle-là. Ils ne sont pas vieux. Ils ont 8 et 10 ans, hein, M. Ferland.
Bien, je suis très content. Et ça m'impressionne même, chapeau. Tu as sûrement passé des messages éducatifs quand même conscients à tes enfants parce que je pense que c'est ça. Il faut arrêter de penser que moi aussi, je suis influencé par tout ce qui m'entoure. Je suis influencé par un paquet d'affaires dans ma vie. Mais à cet âge-là, on est de la pâte à modeler, on est facilement malléable. Puis, c'est pas vrai que je n'ai pas laissé mes enfants jouer à tous les jeux vidéo. Ils ne me trouvaient pas fin des fois, là. Mais Grand Theft Auto, là, puis à l'époque, les affaires, non, tu sais. Mais même moi, le premier, je vais te faire sourire, peut-être, j'ai joué à Diablo. Parce que mes enfants jouaient à Diablo à la maison. Mais quand je finissais à Diablo, à la fin de la soirée, Colin, il était 2 h du matin. J'avais limité mes fils à jouer 1 heure ou 2 heures à Diablo parce que je trouvais que c'était un gruge-temps énorme. C'était le fun. Puis il était bon à l'école, il allait bien. Fait que c'était correct. Il ne faut pas que ça y aille non plus. On va vivre de notre temps. Mais moi, quand j'embarquais là-dessus à 10 h après avoir couché, je me réveillais, Colin, 2 h du matin. Ah, j'avais passé 3-4 niveaux. J'avais-tu de quoi de plus dans ma vie? Non, ça m'avait vidé l'esprit. C'était correct. Mais j'étais un adulte. J'étais capable de comprendre que je venais de peut-être utiliser peut-être un mauvais escient, un mauvais sommeil, peu importe, là, mon temps que j'aurais pu mettre ailleurs. Je pense que c'est pareil en ce moment. Il faut être capable de mettre nos jeunes conscients qu'ils ont des choix à faire. Il y a des avantages à plein de situations, mais il y a aussi des inconvénients. Et le shortcut ne t'amène pas juste des avantages. Moi, je pense qu'on fabrique en ce moment des images par les jeux, la méthode de montrer. On fabrique des vedettes. Moi, j'aimerais ça qu'on fabrique des athlètes encore. L'athlète, il y a du travail en arrière. Il y a du temps, il y a de la préparation, il y a de l'entraînement, il y a des méthodes de travail, il y a de la rigueur. C'est pas vrai. J'ai vu des gens, tu sais, on a parlé, moi, je suis dans le basketball, on m'a parlé de la grande vedette à Montréal. Regarde, il l'a eu facile, lui-là. Là. Son nom est difficile à acheter tout combo. Là. Il y a un nom complexe un petit peu, je ne l'ai pas bien dit, là. Mais les jeunes m'en parlent. Je dis non, ils n'ont pas idée comment ce petit gars-là a travaillé pour se rendre là. Oui, il a des habiletés physiques, mais il y a du travail en arrière. Fait que c'est pour ça que je pense, moi, qu'on se doit comme parent, Yannick, c'est plat, mais de ne pas être juste le chum. Tu es la limite dans leur vie, tu es le cadre qui est sécurisant. Je pense que c'est sécurisant d'avoir des cadres. C'est
Ah oui.
sécurisant d'avoir des limites. C'est pas vrai que tout. Oui, tout peut se faire dans la vie, mais si tu fais tout, tu vas arriver n'importe où. Mets un objectif clair, ils mettent des cadres, puis avancent là-dedans un peu. De toute façon, nos enfants vont les tricher un petit peu. Ils vont traverser la ligne tout le temps. Ils vont tester, puis après ça, ils vont valider si tu as une conséquence à ce que tu as fait ou pas. Ça, je te parle d'éducation. C'est ce que j'essaie d'appliquer dans la police. Ben, tu triches deux, trois fois, mon chum. Viens ici quand je te pogne, je sais que tu as triché trois fois. Toi, on va te ramener plus vite là. C'est ce que j'ai appliqué un peu avec justesse. Mais je l'ai fait aussi, je pense, indirectement avec mes enfants dans l'éducation. Mais je pense qu'on devrait ramener ça, qui est je pense, un gros bon sens.
Oui, puis travailler de plus en plus en amont. Puis je parlais avec Maria Mourani, puis je disais peut-être que ça peut faire une différence quand un ex-chef de gang de rue repenti peut aller s'adresser aux jeunes, que ce soit au primaire ou au secondaire, assisté d'un policier, puis peut-être d'un travailleur social, puis peut-être d'un psychologue qui vont jaser dans les écoles pour parler de ben, c'est quoi un gang de rue, comment on fait pour vous approcher, qu'est-ce que vous pouvez tirer profit quand vous faites partie d'un gang de rue, qu'est-ce qui fait en sorte que vous allez inévitablement passer par la police à un moment donné, puis inévitablement faire de la prison si vous prenez ce chemin-là. Puis l'ex-chef de gang de rue qui se présente devant les jeunes, qui dit « Moi, j'ai fait 10 ans de prison, 15 ans de prison pour quelque chose qui n'en valait vraiment pas la peine
oui.
», je trouve que ça peut être très pertinent pour nos jeunes dans nos écoles, puis on n'a pas tendance à travailler très, très en amont là-dessus. Même chose pour ce qui est de la prostitution juvénile,
Oui.
qu'on parlait tout à l'heure, là.
Ton commentaire, ce que tu viens d'exprimer là, Yannick, est extrêmement pertinent. Pour vrai, là, même si moi je débarque, excuse-moi, j'ai ma couleur de peau, mes yeux qui ne sont pas bridés, mon allure fait en sorte que je vais rester associé au redneck. J'ai beau être fin, je me suis déjà fait dire à la blague, Roger, tu es le plus noir des policiers de Québec, mais excuse-moi, tu as la peau blanche encore. T'sais? Fait que là, je riais de ça, je vais on grève m'arrêter 2 minutes. Non, mais c'est vrai, en voulant dire, j'avais des côtés proches des communautés, capables de comprendre, mais je ne le suis pas. Fait que comme premier symbole, je ne suis pas un symbole qui va les inspirer au départ. Par contre, après, quand ils voient que les valeurs sont là, après ça, on enlève aux autres aussi, ils enlèvent le carapace, puis ils se rendent compte que non, c'est vrai, enlever l'image, la couleur de peau, il n'y a pas de différence. Mais ce que tu dis là, ça prend des modèles qui en sont sortis. Pas juste des modèles qui chantent des chansons, hey, je me suis drogué, puis gars, je m'en sors. Ça, j'aime moins ça un petit peu, parce que tu montres que tu peux te défoncer pendant des années, puis après ça, revenir. N'aie pas le langage des deux bords de la bouche. Soit cohérent. Dis-moi que je l'ai fait, j'en ai arraché terriblement, j'ai failli mourir, parfait, maintenant je m'en sors. Ça, j'aime mieux ça, parce que moi, je vais te dire, qui me l'ont appris, c'est les trafiquants de drogue qui me l'ont dit. Puis les gens de gang, il y a trois façons que tu sors de là. La prison, la mort ou la folie. Il dit, tu capotes, ou ben non, tu vas te faire incarcérer, ben non, tu vas mourir, c'est tout. Puis, c'est des choix que je pense qu'il faut qu'on ramène en bonne place. Parce que c'est un fait, Yannick. Il y a des avantages à consommer un stupéfiant. Temporairement, tu viens d'engourdir puis tu oublies plein de choses. Fait que tu viens d'enlever ton mal de vivre. Mais le problème, au fond, c'est une gestion d'émotions qu'on n'arrive pas à bien canaliser. Fait que j'ai envie de dire des fois à des jeunes, allez donc travailler un petit peu, allez donc bouger un petit peu, allez donc marcher. Trouvez-vous une passion. Faites ce que vous voulez, mais ayez-en une. Parce que sinon, si je te laisse oisif, puis, si on me le disait quand j'étais jeune, l'oisiveté est la mère de tous les vices, bien, tout peut apparaître après ça. Bien, c'est un peu ça, en fait, que j'ai envie de dire. Colin, il faut que tu les occupes. Fait que, des fois, trouve-toi de quoi, valorise-toi, mais je pense que ça faut que ça vienne un petit peu du milieu, il faut qu'on les aide aussi. Les milieux communautaires en ont besoin en ce moment. Il y a des belles choses à faire, puis il y a des beaux rapprochements à faire entre les deux. Mais sinon, il y a un vide, puis un gourou qui va apparaître, qui va les aider.
On passe la soirée en compagnie de Roger Ferland, qui est un ex-enquêteur du service de police de la Ville de Québec, qui a été une légende pour moi dans les années 90. J'entendais tout le temps parler de ce Roger Ferland. Puis là, aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec lui, heureusement, dans une émission de radio plutôt que dans une salle d'interrogatoire, parce qu'on m'a dit qu'il était très difficile en interrogatoire. Il faisait parler beaucoup les gens. Là, c'est à moi de le passer au cash à soir. On y pose plein de questions, puis on va
Mais vous
continuer.
dis, Yannick, tu m'inquiètes, là. Il va falloir que tu me dises avec qui tu parlais pour savoir qu'il y avait une légende qui existait. Mais c'est correct,
Je vous
Yannick.
en
C'est toi
parlerai
qui mène
pendant la
l'entrevue.
pause. Je vous en parlerai pendant la pause. OK, on fait une courte pause, on revient.
Marceau, le soir. Le week-end NHL. Cette fin de semaine, dans le boulevard du Rock et dans le volume à la planche, on célèbre la sortie de NHL 2025 en jouant le meilleur des trames sonores du jeu légendaire. Vos manettes et laissez la radio ouverte. Le week-end NHL. It's in the game à Boulevard 102.1.
Spécialiste et expert en implants dentaires depuis 25 ans, faites confiance au Dr Steve Bernier à Lévis, Québec et à Saint-Georges. 418-835-5858.
Portes et fenêtres Québec, le détaillant spécialisé Fenplast depuis 35 ans. Fenplast est chef de file dans l'industrie des portes et fenêtres au Québec et fabricant numéro 1 selon le magazine Protégez-vous en 2024. Pour un temps limité, Fenplast offre un rabais de 12% sur ses produits. Subvention Réno-Climat est prêt sans intérêt de 40 000 sur 10 ans. Financement sur place. Faites vite, nos dates d'installation s'envolent rapidement. Passez chez Portes et fenêtres Québec, les experts recommandés par CAA Habitation. Trois boutiques dans la grande région de Québec pour mieux vous servir, à Lévis, à Beauport et à Québec, rue Marais, voisin du métro.
La première fois que tu sautes en parachute, c'est en tandem. La première fois que tu fais de la sauce à spag familiale, ben c'est avec ta grand-mère.
N'oublie pas les feuilles de laurier.
Pour votre premier achat de propriété, ben c'est avec MRL Courtier Hypothécaire. MRLHypothèque.ca.
Cette publicité vous présente la nouvelle promo familiale de chez Fromagerie Victoria, communément appelée...
Maman, hein? Est-ce qu'on va manger ensemble quelque part de réconfortant?
Pour 22 $, obtenez une grande poutine, deux pogos et deux breuvages. Fromagerie Victoria, familiale depuis 75 ans.
Oh yeah! Vous en pensez quoi?
C'était quelque chose.
Oh, tu sais vraiment comment épater la foule.
Besoin d'une pause après une autre mauvaise soirée karaoké? Chez Pléo Joe, nous savons trouver la juste note avec des succès comme Wolf Gold et une foule de machines à sous et des jeux de table passionnants chaque semaine. Ressentez cette sensation sur pléojoe.net dès aujourd'hui. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus. Ceci n'est pas un site de paris en ligne. S'il vous plaît, jouez de manière responsable.
Sentir le plaisir, Pléo Joe.
À tous les voyageurs qui affirment que l'aéroport de Québec est trop petit, nous voulons vous dire...
Vous avez totalement raison. Il est trop petit. Trop petit pour s'y perdre, trop petit pour des files d'attente à n'en plus finir, trop petit pour courir vers son vol, avec un grand stationnement au prix trop petit pour s'en passer. Mais ça ne lui empêche pas d'offrir une multitude de vols directs et tous les avantages d'un grand aéroport international. Donc, demandez à votre conseiller en voyage de décoller de l'aéroport de Québec ou visitez décollerdequebec.ca. YQB, le plus petit des grands aéroports.
Les 5 et 6 octobre prochains, c'est le Marathon Bénéva de Québec. Vous habitez près du parcours ou vous voulez encourager les coureurs? Prévoyez vos déplacements. Consultez le ville.quebec.qc.ca/marathon pour tous les détails. Un message de la Ville de Québec.
Vous souhaitez rénover votre résidence avec l'aide d'une designer d'intérieur? Style et Forme Design vous accompagnera pour créer la cuisine, la salle de bain ou l'espace de vie de vos rêves. De la conception à la réalisation de vos projets, faites confiance à Style et Forme Design, un service personnalisé et humain.
Ici Martin Matt. Savez-vous la différence entre un concombre de chez Maxi et un concombre anglais de chez Maxi? Le concombre est à bas prix, alors que le concombre anglais est à low price.
Maxi. C'est pas une joke, c'est de la qualité à bas prix. Point final.
La nouvelle web radio de Boulevard.
Parce que ce que ta voisine de cubicule a fait en fin de semaine passée, tu t'en crois.
La nouvelle web radio de Boulevard. À deux clics du bonheur.
Boulevard 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
102. On reste encore quelques minutes en compagnie de l'ex-enquêteur du service de police de la ville de Québec, Roger Ferland. Il reste plein de choses à jaser. Je ne sais pas si je vais en avoir assez pour 10 minutes. Je prendrai la soirée au complet avec vous, mais je comprends que vous avez d'autres choses à faire. Actuellement, il y a une guerre qui a lieu entre des Hells Angels et divers groupes criminalisés. Au départ, on parlait de la gang de Dave Pick-Turmel. Et là, dans les dernières semaines, on a appris qu'il y avait deux ou trois autres gangs là, en provenance de Montréal qui voulaient profiter de la faiblesse des Hells Angels à Québec pour tenter d'infiltrer le marché. La première étant Everybody Gets Killed. C'est un jeune des jeunes de Montréal qui sont descendus, qui font partie de ce gang criminalisé-là. Et eux auraient travaillé pour les Arabes, donc Arab Power. Et là, il y a plusieurs gangs. De votre carrière, M. Ferland, est-ce que vous avez pensé un jour que les Hells Angels allaient être challengés de cette façon-là? Parce que là, on se retrouve avec des Hells Angels qui ont 50, 60, 70 ans, des hang-around qui disent « Non, moi, là, cette guerre-là, c'est pas ma guerre, puis ça me tente plus d'être avec vous autres. » Des strikers qui font à peu près la même affaire aussi. Les Hells Angels sont en affaires, c'est des gars qui ont beaucoup d'argent. La dernière affaire qu'ils voulaient, c'est de rentrer en guerre, là.
Oui. Effectivement, je vais te répondre, je ne pensais pas que ça arriverait parce que les Hells avaient réussi à tellement s'infiltrer, même là maintenant, dans l'économie légale, qu'à toutes sortes de niveaux, toutes sortes de commerces qu'ils possèdent, que je ne pensais pas que Colin, il vivrait un jour il vivrait un jour ce qu'ils ont fait pour prendre leur place. Puis je t'explique pourquoi. Quand tu regardes la vie des Hells, ce qu'ils ont été au Québec, là, ce qu'on a eu nous autres ici, moi je connais plus le chapitre de Québec City, là, qui appelle Québec City. Et on le dit toujours en anglais parce que ça fait partie des règles de base. Ils n'ont pas le droit de traduire en français toutes les choses. Là, t'sais. Ils ont eu une exception pour au Québec, là, mais pour certains assouplissements, eux autres aussi des règles parce que c'est une règle internationale. La première business qu'il y a eu en dessous, la compagnie qu'ils ont eu, ça s'appelait les Compagnons du Rang, RANG. Alors, ils étaient tous dans le rang, dans le bas du fleuve, secteur La Pocatière, Rivière-du-Loup, tout ce qui est secteur-là à côté, ils viennent tous du même coin. Alors, si tu me demandais c'était quoi, c'est une gang de chums, bikers, une gang de rue, une gang de rang de ce secteur-là. Et tranquillement, chacun d'eux avait des contacts à l'extérieur et se sont mis à contrôler des territoires et s'élargir leur territoire comme ça. Se sont racoquinés avec une gang qui naît de la Beauce, qui était encore là, une gang de rue de la Beauce, genre. Mais on ne prenait pas ce terme-là à l'époque. On disait que c'était des motards, c'est autrement. Fait, j'ai envie de te dire, c'est le phénomène social qui a été là. On a tous besoin de se regrouper, une association. Et dans le départ, ils ont été extrêmement violents dans leur façon de monter la hiérarchie. Ils ont tué beaucoup de monde, ils ont terrorisé des gens, ils ont mis le feu à des commerces autour aussi. T'sais, il y a eu un paquet d'histoires. Alors, ça s'est modifié. Là où tu y avais réussi à vivre sur leur logo, sur l'air d'aller, leur image suffisait. Son of Anarchy, le film a été populaire pour eux. Ça les a même quasiment rendus sympathiques aux yeux de la société. Il ne faut pas se tromper, quand tu regardes la fin, le fils là, du moteur, à la fin, il se suicide, si tu te souviens bien. Là. Du moins, avec son bicycle, il fonce à quelque part. On pense, du moins, on ne voit pas l'image, mais on comprend que c'est ce qui s'est passé. Ce que je veux qu'on comprenne, c'est que puis quand tu regardes tout dans l'histoire, regarde tout le niveau de violence qu'ils ont dû faire, même entre eux, pour arriver à monter puis rester là. Fait que quand tu me dis qu'il y avait un certain code d'honneur, même du côté italien, j'ai envie de dire, what? On peut-tu y repenser un petit peu? Là? Je me rappelle des images dans le film Le Parrain, là, que quand il rentre la fourchette puis le coup de batte de baseball dans la tête de quelqu'un, c'est loin d'être sympathique. C'est loin d'être sympathique. Fait que, c'est ça que je veux qu'on reprenne, on remet ces paramètres, mais là, vois-tu nos jeunes? Ouais, ça, c'était des affaires de vieux. Moi, aujourd'hui, je m'influence avec... tu as parti tantôt en disant tous les phénomènes sud-américains qu'on a eus en ce moment, là, puis d'Amérique du Sud un petit peu. Et Colin, oui, c'est vrai que c'était de la violence à la machette, au couteau, les têtes tranchées, les oreilles coupées, tout ce qu'on a vu. Puis pour être sûr, ben, ils sont filmés puis ils l'ont montré à tout le monde. Je ne pensais pas qu'on en viendrait là. Je ne pensais pas qu'on vivrait ça ici au Québec, tu as raison. Mais je pense que chaque chose vit de son temps. Fait qu'on vit une nouvelle réalité, une nouvelle façon d'avoir le crime parce que c'était relativement apaisé. C'était relativement apaisé. Même si les Hells Angels s'en sont bien tirés dans le shark, ils n'ont pas apprécié. Ça a fait mal à leur business. Ils n'étaient pas chez eux avec leur famille. Ça a eu beaucoup d'impact social. Ils se sont fait gruger du terrain. Ils ont essayé de ressortir de là, reprendre leur place. Ils n'ont jamais été à la même place. Alors, ils ont essayé de rebâtir des équipes, mais tout le long qu'on les laissait calmes, ils ont fait naître beaucoup de petits clubs entre eux. Il y en avait terriblement qui travaillaient à leur solde. Mais là, le cheap labor a dit, c'est fini, on arrête de travailler pour vous. Et toutes ces équipes cheap labor-là se sont associées sur le logo BFM. Mais tu sais, ça n'existe pas. Tu n'es pas membre BFM, comprends-tu, Yannick? C'est un label que tu utilises, je pense, pour te montrer que tu t'opposes à une autorité qui est là en haut. Là, pour l'instant, c'est les Hells, mais d'après moi, ils vont être capables de s'opposer à toutes sortes d'autorités qui vont être en avant d'eux tantôt. Comme on voit dans des pays où, en ce moment, on voit qu'on dit les pays sont corrompus, ou être un peu, mais c'est parce que l'autorité arrive pas à prendre le dessus. Là, qu'est-ce qui se passe en Colombie? Comment ça brasse au Mexique? Comment ça brasse dans certains pays en ce moment? Ça brasse terriblement. Là, puis c'est le cartel, la drogue qui contrôle. Je veux pas ça chez nous ici. Là, je veux que ce soit l'arbitre encore qui contrôle le match. Mais l'arbitre va pouvoir le faire à la hauteur que la société va lui donner ses droits et ses pouvoirs. Puis on est dans ça un petit peu.
Ouais.
On a balisé la police pas mal. Là. Je pense qu'on devrait y redonner du gaz un peu. Là.
Roger Ferland, je veux pas vous faire faire de politique, mais si vous voulez pas me répondre, je pense que vous êtes capable de pas me répondre. Vous avez vu une couple de monde pas vous répondre dans les dernières années. Il y a un jeune de 14 ans qui est décédé à Frampton. C'est un enfant, à mes yeux, à moi. Il y a une victime innocente, une première victime innocente de cette guerre-là qui fait rage, qui a été tuée dans le secteur du Saguenay. Qu'est-ce que ça va prendre aux politiciens pour mettre plus d'argent pour qu'on puisse rebâtir des escouades qu'on avait dans le temps qui étaient extrêmement efficaces et redoutables?
Bien, ça va prendre pour commencer qu'on donne les coups des franges pour qu'on fasse confiance à nos services de police. J'ai envie de dire en ce moment, là, nos jeunes, sincèrement, sont très bien formés. On a de l'équipement. On a du matériel, puis nos jeunes sont vraiment dévoués, là. Mais à chaque fois qu'il arrive un petit quelque chose, on les épie, on les enquête sur tout. On remet en question sans arrêt leurs décisions. Mais vois-tu, regarde, c'est le fun. L'autre jour, on me posait la question. Regarde, il y a plein d'enquêtes BEI, ça n'a rien donné, on n'a pas condamné des policiers. Non, c'est rassurant. Le bureau d'enquête indépendante a enquêté, puis arrive au résultat que les policiers ont bien travaillé. Merci, chapeau, c'est ce qu'on veut. Alors là, on est devant une situation où ce qu'on se dit, va falloir, je pense, qu'on investisse nous aussi les budgets à la bonne place. On a entendu ces dernières semaines, puis je ne veux pas tomber dans la politique, tu le dis, parce que je n'étais pas un administrateur. Moi, j'étais un gars de terrain, puis on me disait tout le temps que je coûtais cher. Je coûtais cher, oui, mais je pense qu'on avait des résultats, mais je ne voulais pas coûter cher. Je voulais que le prix d'une sécurité, ça a un prix, la sécurité. Alors, c'est ce que je demandais souvent, bien, si on fait ce dossier-là, comment ça va coûter, Roger? Je ne sais pas comment ça va coûter. On peut-tu s'attaquer à tel business, telle affaire, puis le faire à ce moment-là? Mais ce que j'ai envie de te dire, en ce moment, on a vu des chiffres passer, là, puis les chiffres parlent. Là, je ne veux pas faire de politique, mais si on compare officiellement, Caroline, tu me dis que SPVM a en ce moment 213 policiers par 100 000 habitants. C'est correct. Québec, on est à 157, je pense, là. C'est des chiffres, ça, là. T'sais, Laval est à 213, 214, quelque chose comme ça. SQ, c'est-à-dire, la SQ est à ça. T'sais, ça veut dire que ton ratio pour 100 000 habitants n'est pas le même. Caroline, je veux bien croire qu'ils ne sont peut-être pas tous aussi efficaces un que l'autre, les policiers, mais ça veut dire que tu as pas mal de monde qui ne patrouille pas tes rues en ce moment. Ça, c'est un élément important. Puis, quel est le pourcentage de budget qu'une ville investit? En tout cas, là, on a eu aussi encore là des façons de comprendre que c'est peut-être pas comme ça qu'on devrait le voir. Là, t'sais. T'sais, 8 % de ton budget, OK. On réussissait à faire beaucoup avec peu à Québec, j'ai envie de te dire, pour vrai, là, j'ai souvent pris l'expression que 4,30 sous à Québec rapporte une pièce. Certains services de police, ça t'en coûte 2 ou 3 piastres pour avoir la même affaire. C'est différent. Mais vois-tu, là, on est là, on vit ça. Je pense que là, je vais laisser à nos patrons décider.
Ouais.
Notre ville est encore sécuritaire, mais il faut arrêter là, de déshabiller des escouades pour en habiller un autre. Il va falloir qu'on rajoute du personnel. Puis il va falloir qu'on fasse confiance à nos gens. Je me disais, Yannick, quand on m'a demandé d'embarquer ces escouades Carcajou, on venait te chercher parce que tu avais ton efficacité reconnue terrain. Mais la première critère, on disait, as-tu peur de te faire apporter en déontologie? As-tu peur des causes disciplinaires? J'étais un peu, mais ça, pour moi, j'en ai pas. Non, mais as-tu peur de ça? Ah ben, c'est pas dans mon équation. Je travaille pour ne pas en avoir. Fait que je travaille avec éthique et avec rigueur. Parfait, viens-t'en dans l'escouade. C'est niaiseux, mais c'était un des critères qu'on te disait. Tu sais, je souris, mais que tu dirais ça à des jeunes, « Ouais, mais tu vas-tu me baquer? » Fait que là, il faut qu'en ce moment, que les patrons baquent, il faut qu'on dise aux jeunes, « Oui, vous allez y aller. » Mais il faut qu'on donne les coups des franches un petit peu, de dire, tu sais, on a tellement parlé de sortes de patentes, interceptions aléatoires qu'on n'a plus le droit de faire. Il y avait une manifestation hier pour enlever les policiers qui ont sur leur chandail, sur leur veste pare-balles, une ligne bleue pour dire qu'ils supportent les confrères au travail. Un petit peu, il n'y a rien de raciste là-dedans. Là. Mais je ne veux pas tomber dans le combat. Là, puis je me suis déjà fait bâcher parce que j'avais parlé de Black Lives Matter un petit peu. Là, arrêtons, là. Revenons sur ce que je maîtrise. Là. Moi, j'ai envie de te dire, nos policiers sont bien formés. Ils sont efficaces. Ils ont de l'équipement en ce moment. Parfait. On peut-tu les laisser couper des franges? Puis ça te prend le même demain matin qu'ils retournent sur le terrain, Yannick. Ça ne te prend pas. Aujourd'hui, c'est un policier. Demain, ça en est un autre. Bien, c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire de personne, ça, ce travail-là. Je pense que ça prend un escouade, 10, 15, 20, ils choisiront le nombre qu'ils veulent, dédié, mais qui retourne patrouiller, connaître ces secteurs-là, connaître ton territoire, connaître, et tu vas développer c'est qui ta vraie bonne clientèle, tu vas t'adresser à eux, puis tu vas développer toi aussi des skills de communication puis d'intervention. Puis, si tu as besoin, les policiers travaillent tous en équipe en ce moment. On n'a plus de frontières. sais, les gardes-clochers sont souvent un petit peu dans le haut des organisations parce que qui va planter son drapeau? Parce que le budget vient avec le drapeau à l'occasion. Mais je pense que là, on n'est plus là. Travail terrain, la SQ, la GRC, Lévis, Québec, tout le monde est capable de travailler ensemble. Regarde les réponses qu'ils ont eues à Frampton, très vite, c'est SPVM qui leur a donné. Parce que le jeune, c'était triste, mais le jeune de 14 ans était déjà identifié comme étant un membre pouvant être associé ou graviter autour des gangs. Ben, c'est pas par son visage, apparemment, que, où il y avait certains signes distinctifs qui étaient durs à reconnaître, mais par certains autres signes de son corps, par des étapes d'enquête.
En fait, pour avoir recueilli des témoignages des policiers qui étaient sur place, là, on ne pouvait pas le reconnaître. C'est vraiment l'ADN.